Je présente maintenant Philippe Descola. Il est anthropologue, né en 1949. Il est actuellement professeur au Collège de France dans la chaire d'anthropologie de la nature. Il dirige le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Il est aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a fait des études de philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, puis s'est orienté vers l'ethnologie. Il a été chargé par le CNRS d'une mission ethnographique. Il a séjourné de 76 à 79 chez les Givarots à Chouard, dont il étudie plus particulièrement les relations à l'environnement naturel. En 83, il a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de Claude Lévi-Strauss. En 84, il est devenu maître de conférence. En 89, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et en l'an 2000, il a été élu professeur au Collège de France. Il se consacre à l'étude anthropologique comparative des modes de socialisation de la nature et continue en parallèle ses recherches de terrain en Amazonie. Vous trouverez sa bibliographie détaillée sur les sites internet. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées, mais il a écrit aussi La nature domestique aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 1986, Les lances du crépuscule chez Plon dans la collection Terre humaine que vous connaissez en 1993, et en collaboration Les idées de l'anthropologie chez Armand Collin en 1988. Il a collaboré au dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie aux presses universitaires de France et à la production du social chez Fayard 1999. Je lui laisse donc la parole pour une cinquantaine de minutes. Et ensuite, il répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser. Merci.
Jamais peut-être la question du rapport de l'homme à la nature ne s'est posée avec une telle acuité dans l'opinion qu'en ce début du XXIe siècle. La détérioration accélérée de certains milieux fragiles, la disparition de nombreuses espèces vivantes, les risques climatiques, la prolifération d'organismes génétiquement modifiés, la pollution des airs et des eaux, suscitent chez les citoyens, comme chez les gouvernants, des inquiétudes multiples et la volonté d'étendre l'action publique à des domaines où elle était peu présente jusqu'à maintenant. Avec les immenses progrès de la génétique et les manipulations biologiques que ceux-ci rendent désormais possibles, c'est aussi la part naturelle de l'homme qui se voit mise en question. Le développement de la reproduction assistée, depuis la fécondation in vitro jusqu'au clonage des mammifères, le perfectionnement des techniques de greffe et de transplantation, l'ambition affichée par certains d'intervenir sur le génome humain à un stade précoce de l'embryogenèse, tout cela pose assurément des questions cruciales sur le plan éthique, mais bouleverse également des conceptions établies tant de la personne humaine et de ses composantes que de la production de l'identité individuelle et collective et des institutions sociales où elle s'opère. Si les réactions d'alarme que suscitent les transformations de l'environnement et le développement des biotechnologies expriment souvent une évaluation sérieuse des risques encourus, elles prennent aussi parfois un caractère déraisonnable qui témoigne de l'angoisse profonde provoquée par la remise en cause que subissent dans le monde occidental les croyances et les normes organisant le rapport de l'homme à la nature. Face à de telles inquiétudes, les explications des biologistes ou des climatologues ont peu de prise en raison de leur technicité d'abord, mais aussi parce que le comportement de l'opinion, au regard de la question de la nature, procède d'un substrat culturel dont la formation et le développement sont, pour une large part, indépendants des acquis de l'activité scientifique. C'est à l'étude de ce genre de substrat que l'anthropologie commence à s'attacher. Non pas pour répondre aux sollicitations de l'actualité, mais bien plutôt parce qu'il est devenu indispensable de replacer la compréhension des attitudes contemporaines vis-à-vis de la nature dans un vaste cadre comparatif où peuvent être examinées les différentes conceptions de la dimension biologique de l'homme et du rapport à l'environnement physique que les peuples se sont forgés au fil du temps et dans les régions les plus diverses de la planète. L'anthropologie, entendue comme connaissance générale de la vie sociale à travers la diversité de ses expressions culturelles, se trouve dans une situation favorable pour mener à bien ce genre d'entreprise. En premier lieu, par la définition du champ de savoir sur lequel elle s'appuie afin de produire des propositions générales. Car le problème des rapports de continuité ou de discontinuité entre la nature et la culture est au cœur du développement de l'anthropologie depuis ses origines, même si l'impulsion initiale dans cette direction fut en partie circonstancielle. Avec l'expansion coloniale, la deuxième expansion coloniale, celle du XIXe siècle, s'accumulaient en effet les informations rapportant la manière étrange dont bien des peuples non modernes concevaient leur rapport aux plantes et aux animaux, attribuant à telle espèce un statut d'ancêtre, traitant telle autre comme un proche parent. L'ethnologie a surgi de la nécessité d'expliquer ces formes de pensée exotiques qui ne paraissaient pas établir des démarcations nettes entre humains et non-humains, et cela à une époque, la fin du XIXe siècle, où la nature et la culture avaient enfin été compartimentées de façon stricte et référées à des méthodes et des programmes scientifiques bien distincts. La distinction entre science de la nature et science de la culture qui se met alors en place va en effet définir le champ où l'ethnologie pourra se déployer tout en la condamnant dès ses débuts à ne pouvoir appréhender l'environnement physique que comme ce cadre extérieur de la vie sociale dont les sciences naturelles définissent les paramètres. De là résultent les grands débats sur les religions totémiques, naturalistes, animiques, etc., dans lesquels les fondateurs de la discipline visaient à rendre compte de l'origine, soit cognitive, soit sociale, de constructions intellectuelles qui, en négligeant les distinctions entre humains et non-humains, paraissait aller à l'encontre des exigences de la raison. Toutefois, l'intérêt accordé par l'anthropologie au problème des rapports entre la nature et la culture va bien au-delà de la réaction savante provoquée par la découverte de continuités troublantes entre les hommes et les objets naturels dans la pensée des peuples sans écriture. Car le champ arpenté par cette discipline est celui où se croisent et se déterminent mutuellement les contraintes universelles du vivant et les règles contingentes de l'organisation sociale, la nécessité où les hommes se trouvent d'exister comme organismes dans des milieux qu'ils n'ont façonnés qu'en partie et la capacité qui leur est offerte de donner à leurs interactions avec les autres entités du monde une myriade de significations particulières. Tous les objets concrets de l'investigation ethnologique sont situés dans cette zone de couplage entre les institutions collectives et les données biologiques et psychologiques qui donnent au social sa substance, mais non sa forme. Les règles de la parenté et de l'alliance matrimoniale, les modes d'usage et d'aménagement de l'environnement physique, les systèmes techniques, les formes de l'échange, les conceptions de la personne, du corps et de l'infortune, le savoir sur le monde et les dispositifs classificatoires qui l'accompagnent, tout cela traduit un large éventail de fonctions physiologiques, de particularités anatomiques, de schèmes moteurs, de facultés cognitives que l'on ne saurait dissocier des formes culturelles au sein desquelles ils sont exprimés. Et si l'anthropologie ne songe guère à réclamer pour elle-même le monopole de l'étude de ces faits d'interface que d'autres sciences prennent également pour objet, il faut néanmoins convenir que les ayant d'abord appréhendés au loin et dans leurs manifestations les moins familières, elle se trouve mieux armée par son expérience de la comparaison pour les aborder dans leur expression la plus générale. Le problème que l'anthropologie se pose est en effet simple à formuler, mais terriblement difficile à résoudre. Comment concilier le fait que l'espèce humaine possède un équipement biologique et cognitif sans grande variation interne ? Comment concilier ce fait avec le constat qu'elle emploie cet équipement de manière extrêmement variable ? Mauss, Marcel Mauss, l'avait déjà souligné il y a près de 70 ans dans sa fameuse étude sur les techniques du corps. Bien que la marche, la course, la natation ou la percussion lancée fassent par tout appel aux mêmes dispositifs et aux mêmes aptitudes mécaniques et neurophysiologiques, on ne marche pas, on ne court pas, on ne nage pas, on ne se sert pas d'un percuteur de la même façon selon les lieux et les milieux où l'on a appris ces techniques, en les intériorisant comme des schèmes corporels qui sont pourtant perçus, au premier abord, par nous tous, comme tout à fait naturels. Et la diversité est plus grande encore, bien sûr, en matière d'institutions collectives. Les règles de mariage, les formes de l'autorité, les types légitimes ou illégitimes d'expression de la violence, les hiérarchies de statut, les normes de l'échange et de la circulation des biens matériels, tout cela se présente à nous comme un tableau d'une étourdissante variété dont les différentes pièces ne cessent de gagner en richesse et en précision grâce au labeur patient des ethnographes et des historiens depuis un siècle et demi. La tâche de l'anthropologie est de mettre au jour des régularités dans ce foisonnement de particularismes, régularités qui doivent être compatibles avec ce que l'on sait de l'appareillage physiologique et psychique de l'homme, sans lui être pour autant complètement asservi. Il s'agit, en somme, de rendre intelligible la manière dont des organismes d'un genre particulier, les humains, s'insèrent dans le monde, en sélectionnent telle ou telle propriété pour leur usage et concourent à le modifier, à modifier ce monde, en tissant avec lui et entre eux des liens constants ou occasionnels d'une diversité remarquable, mais non infinie. Ce sont ces liens que l'on appelle des invariants anthropologiques. Certains sont connus depuis longtemps. Ainsi, l'on sait maintenant qu'il existe seulement un nombre réduit de types de nomenclature de parenté, c'est-à-dire de manière de classer les parents et de les regrouper en catégories nommées. Dans notre propre système, appelé Esquimaux, les germains des deux sexes de mes géniteurs ne sont pas distingués. Ce sont des oncles et des tantes. Dans le système dit iroquois, en revanche, le frère de mon père est appelé du même terme de parenté que mon père, le frère de ma mère étant désigné par un terme différent. Dans le système dit hawaïen, père, frère de père et frère de mère reçoivent le même nom, tandis que dans le système dit soudanais, ils ont tous un nom différent. Certes, les nomenclatures de parenté concrètes ne se conforment pas toutes parfaitement à ces types idéaux, mais ce genre d'invariant typologique est néanmoins fort utile pour comprendre les variations que telle ou telle nomenclature présente par rapport à un type. On voit donc que les invariants anthropologiques ne sont pas des universaux. Les invariants sont des règles de combinaison fondées sur des caractéristiques élémentaires du monde. Ici, dans le cas des nomenclatures de parenté, la reproduction sexuée et la différence des sexes dans une fratrie. Règles de combinaison qui permettent d'engendrer un nombre fini de réalisations possibles, dont une partie seulement est réalisée dans la vie sociale. Les seconds, les universaux, sont des propriétés qui ne souffrent pas d'exception, du type « toute société a un vocabulaire de parenté », ce qui les rend peu productifs sur le plan anthropologique pour expliquer les variations. Je voudrais maintenant revenir à la question du rapport à la nature et présenter un autre type d'invariant anthropologique sur lequel je travaille depuis quelque temps déjà et qui me paraît structurer les liens extrêmement divers que les sociétés entretiennent avec leurs environnements. L'étude interculturelle des modes d'objectivation de la nature pose en effet un problème de taille et un problème qui n'est pas seulement sémantique. Les peuples non modernes, dont l'ethnologie a longtemps fait son objet principal, ont tendance à attribuer aux objets naturels bien des caractéristiques de la vie sociale. Or, tous ces peuples, qui furent longtemps qualifiés de naturels, ne sont en aucune façon englués dans la nature, puisque les objets Et les êtres qui peuplent leur environnement se conforment au contraire à bien des règles de la société. Une nature ainsi dotée de la plupart des attributs de l'humanité n'est évidemment plus une nature, cette notion ayant été forgée en Occident pour désigner l'ensemble des êtres et des phénomènes qui, possédant des lois de développement propres, se distinguent de la sphère de l'action humaine. Bref, bien des sociétés de par le monde ne séparent pas la nature de la culture comme deux domaines de réalité incompatibles, une distinction demeurant récente dans l'histoire de l'Occident. Et il est donc souhaitable de faire l'économie de cette coupure lorsque l'on réfléchit aux moyens que l'humanité a employés pour s'objectiver dans le monde. Une telle perspective modifie l'objet même de l'anthropologie, puisque celle-ci n'aurait plus pour tâche d'étudier des institutions et des pratiques classées selon leur degré d'autonomie vis-à-vis de la nature, mais les formes et les propriétés des différents systèmes possibles de rapport à l'environnement humain et non humain. Sur quel type d'invariants s'appuyer pour mener à bien une entreprise de ce genre ? On peut partir du fait que nous arrivons tous dans le monde équipés d'un corps et d'une intentionnalité, c'est-à-dire dotés tout à la fois d'un paquet de formes, de fonctions et de substances, et d'une aptitude à représenter mentalement des états de choses réels ou souhaitables. Cet équipement nous permet de procéder à des identifications. Il faut entendre par ce terme d'identification le mécanisme élémentaire au moyen duquel j'établis des différences et des ressemblances entre moi et les existants, en inférant des analogies et des distinctions d'apparence, de comportement et de propriété entre ce que je pense que je suis et ce que je pense que sont les autres. Autrement dit, je peux attribuer ou dénier à autrui une intériorité et une physicalité analogues à celle dont je pense être pourvu. Oh, la nature de cette intériorité peut être très variable selon les cultures et se référer aux attributs ordinairement associés à l'âme, à l'esprit ou à la conscience, intentionnalité, subjectivité, réflexivité, affect, aptitude à rêver ou à signifier, aussi bien qu'à des caractéristiques plus abstraites, comme l'idée que je partage avec autrui une même essence ou une même origine, ou que nous relevons d'une même catégorie ontologique. Le critère de physicalité concerne en revanche la forme, la substance, les processus physiologiques, perceptifs et sensorimoteurs, voire le tempérament, en tant qu'ils exprimeraient l'influence des humeurs corporelles. Or, ce mécanisme d'identification est moins informé par la contingence de l'expérience ou par des dispositions individuelles que par les schèmes que j'ai intériorisés au sein de la collectivité où je vis et qui structurent de façon sélective le flux de la perception en accordant une prééminence significative à certains traits et processus observables dans l'environnement. Quelle que soit la diversité des conceptions de la personne que les ethnologues se sont attachés à inventorier, il semble bien en effet que la dualité de l'intériorité et de la physicalité soit partout présente, avec des modalités certes multiples de connexion et d'interaction entre les deux sphères, car on ne trouve nulle part trace, avant bien sûr les théories matérialistes modernes de la conscience par exemple, d'une conception de la personne ordinaire vivante qui serait fondée sur la seule intériorité, disons une âme sans corps, dans notre propre terminologie, ou sur la seule physicalité, disons un corps sans âme. Donc la distinction entre intériorité et physicalité n'est pas la simple projection ethnocentrique d'une opposition qui serait propre à l'Occident entre le corps d'une part, l'esprit ou l'âme de l'autre. Il faut au contraire appréhender cette opposition telle qu'elle s'est forgée en Europe et les théories philosophiques et théologiques qu'elle a suscitées comme une variante locale d'un système plus général de contrastes élémentaires dont on peut étudier les mécanismes et les arrangements dans une perspective comparative. On pourrait sans doute s'étonner à bon droit de voir ainsi un dualisme de la personne, fort discrédité à présent, acquérir une universalité que j'ai déniée auparavant au dualisme de la nature et de la culture. Pourtant, les arguments empiriques ne manquent pas pour justifier un tel privilège, notamment le fait que la distinction entre l'intériorité et la physicalité du moi est marquée d'une façon ou d'une autre dans tous les lexiques, tandis que les équivalents terminologiques du couple de la nature et de la culture sont difficiles à trouver hors des langues européennes. Mais il faut surtout répondre ici que, contrairement à une opinion en vogue, les oppositions binaires ne sont pas des inventions de l'Occident ou des fictions de l'anthropologie structurale, qu'elles sont très largement utilisées par tous les peuples, dans bien des circonstances, et que c'est donc moins leur forme qui doit être mise en cause que l'universalité éventuelle des contenus que ces oppositions binaires découpent. Or, les formules autorisées par la combinaison de l'intériorité et de la physicalité sont très réduites. Face à un autrui quelconque, humain ou non humain, je peux supposer soit qu'il possède des éléments de physicalité et d'intériorité analogues au mien, soit que son intériorité et sa physicalité sont distinctes des miennes, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités différentes, soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités analogues. Ces formules définissent quatre grands types d'ontologie, c'est-à-dire de systèmes de propriétés des existants, lesquels servent de point d'ancrage à des formes cosmologiques, des modèles de liens sociaux et des théories de l'altérité. Prenons l'exemple de ces sociétés très communes en Amérique du Sud et du Nord, en Sibérie et en Asie du Sud-Est, qui dotent les plantes et les animaux d'un principe spirituel propre et estiment qu'il est possible d'entretenir avec ces entités des rapports de personne à personne, rapports d'amitié, d'hostilité, de séduction, d'alliance ou d'échange de services. Dans ces systèmes, que j'appellerai animiques, humains et non-humains sont donc réputés posséder une intériorité de même nature. Bien des animaux et des plantes sont conçus et traités comme des personnes dotées d'une âme qui leur permet de communiquer avec les humains. Et c'est en raison de cette essence interne commune que des non-humains sont dits posséder des caractéristiques proprement sociales. La hiérarchie des statuts, des comportements fondés sur le respect des règles de parenté ou de codes éthiques, l'activité rituelle, etc. Toutefois, la référence partagée ici par la majorité des existants est l'humanité comme condition et non l'homme comme espèce. Autrement dit, les humains et toutes les classes de non-humains ont des matérialités distinctes en ce que leurs essences internes identiques s'incarnent dans des corps aux propriétés contrastées, corps qui sont souvent décrits localement comme de simples vêtements pour mieux souligner leur indépendance des intériorités qui les habitent. Or, ces vêtements spécifiques induisent des perspectives différentes sur le monde en ce que les contraintes physiologiques et perceptives propres à un type de corps imposent à chaque classe d'être une position et un point de vue particulier. Les uns comme les autres ont donc une vision que nous appellerions intégralement culturelle de leur environnement en raison d'une intériorité calquée sur celle des humains, mais le monde qu'ils appréhendent leur apparaît différent en raison de leur matérialité corporelle respective. Ces différences de matérialité portent sur les formes plus que sur les substances. Cela n'est guère surprenant si l'on songe que les ontologies animiques empruntent vraisemblablement une partie de leur schéma opératoire au modèle de la chaîne trophique. En Amazonie, dans l'ère arctique et subarctique, ou dans les forêts de l'Asie du Sud-Est, on retrouve en effet cette même idée que la vitalité, l'énergie, la fécondité circulent constamment entre les organismes grâce à la capture, à l'échange et à la consommation des chairs. Ce mouvement permanent de recyclage des tissus et des fluides à tous les étages de la ripaille cosmique, analogue à celui qui caractérise l'interdépendance alimentaire dans le processus cinécologique, permet donc de comprendre pourquoi tous ces êtres qui s'ingèrent les uns les autres ne sauraient guère se distinguer par les matières dont ils sont faits. Dans les systèmes animiques, du reste, les prohibitions et les prescriptions alimentaires, au moins pour but de prévenir ou de favoriser le mélange de substances réputées hétérogènes, comme c'est le cas dans la médecine chinoise ou dans la médecine galénique, que d'empêcher ou de rendre possible le transfert depuis l'espèce prohibée ou consommée de traits anatomiques particuliers ou de certaines caractéristiques de comportement censées dériver de ces traits. En revanche, la place que chaque être occupe dans la chaîne trophique est très précisément déterminée par son appareillage organique, puisque celui-ci conditionne tout à la fois le milieu de vie accessible, terrestre, aquatique ou aérien, et, à travers les organes de locomotion et d'acquisition de nourriture, le type de ressources qui pourra être prélevé dans cet environnement. Donc la forme des corps dans les ontologies animiques est plus que la simple conformation physique, c'est l'ensemble de l'outillage biologique qui permet à une espèce d'occuper un certain habitat et d'y développer le mode d'existence distinctif par quoi on l'identifie au premier chef. Donc sur le fond d'une intériorité identique, chaque classe d'êtres possède sa physicalité propre, à la fois condition et résultat d'un régime alimentaire et d'un mode de reproduction particulier, induisant ainsi ce que l'on pourrait appeler un éthogramme, c'est-à-dire un mode de comportement spécialisé dont les caractéristiques détaillées ne pouvaient échapper aux facultés aiguës d'observation que doivent déployer des peuples amenés à extraire chaque jour leur subsistance d'un environnement peu anthropisé. Transportons-nous maintenant parmi les aborigènes australiens, où l'identification entre humains et non-humains au sein des groupes totémiques repose sur des principes très différents. Dans nombre de tribus, en effet, le totem principal d'un groupe, une espèce naturelle, un objet, un élément du relief, une substance ou une partie du corps humain, et tous les êtres humains et non-humains qui lui sont affiliés, sont réputés partager des propriétés physiologiques, psychiques et physiques en vertu d'une origine commune et localisée dans l'espace. Ces propriétés ne sont pas nécessairement dérivées de celles de l'entité éponyme du groupe totémique, d'autant que pour ce qui est des animaux en tout cas, le terme désignant le totem n'est pas à proprement parler un nom d'espèce, mais bien plutôt le nom d'une propriété abstraite présente autant dans cette espèce que dans tous les êtres relevant du groupe totémique. Par exemple, un nom de section, qui est très commun sous diverses variantes en Australie occidentale, Padjari, et qui signifie « malléable, doux », sert aussi à nommer le kangourou des collines, qui est généralement le totem de cette section. De même, chez les Noongars du sud-ouest de l'Australie, les moitiés étaient-elles nommées Marnetch, que l'on peut traduire par l'attrapeur, et Vardar, qui signifie le guetteur. Ces deux termes servant aussi à désigner leurs totems respectifs, le cacatoès blanc et le corbeau. Autrement dit, les noms de classes totémiques sont des termes dénotant des propriétés qui désignent aussi l'animal éponyme et non l'inverse, à savoir des noms de taxons zoologiques, doucerait, inférer des attributs typiques des classes. Il devient alors difficile de maintenir pour l'Australie l'interprétation classique des classifications totémiques, c'est-à-dire l'idée que les totems seraient empruntés au règne de la nature parce que les différences ostensibles entre les espèces en matière d'apparence et de comportement fournirait un modèle suggestif pour conceptualiser la segmentation des groupes humains. En effet, la différence première est ici entre des agrégats d'attributs communs à des humains et des non-humains au sein de classes désignées par des termes abstraits, non entre des espèces animales et végétales susceptibles de fournir naturellement, par leur discontinuité ostensible, un gabarit analogique servant à ordonner les discontinuités sociales. Le trait assurément le plus original du totémisme australien est son enracinement dans un système cosmologique et éthiologique tout à fait singulier que l'on a pris l'habitude d'appeler Dreamtime ou Dreaming en anglais et rêve avec un R majuscule en français. Le rêve, avec un R majuscule, évoque en première approximation tout ce qui se rapporte au temps de la mise en forme du monde telle qu'elle est relatée dans certains récits rituels accompagnant des cérémonies totémiques. On y rapporte qu'à cette époque de fondation, des êtres originaires surgirent des profondeurs de la terre en des sites précisément identifiés, certains d'entre eux se lançant dans des pérégrinations émaillées de péripéties dont les trajets et les haltes sont toujours lisibles dans la matérialité de l'environnement sous forme de roches, de points d'eau, de bosquets ou de gisements d'ocre. Ces êtres disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, soit dans le lieu même de leur émergence, soit au terme de leur voyage, après avoir laissé derrière eux, chacun pour son compte, une partie des existants actuels dans toute leur pluralité. Les hommes, les plantes et les animaux, avec leurs affiliations totémiques respectives et les noms qui les désignent, les rites et les objets cultuels, des éléments remarquables, organiques ou inorganiques, du paysage. À la fois artisans, démiurges et prototypes de la réalité sociale et physique, ces êtres du rêve sont le plus souvent présentés comme des hybrides d'humains et de non-humains déjà répartis en groupes totémiques au moment de leur venue. Ils sont humains par leur comportement, par leur maîtrise du langage, par l'intentionnalité dont ils font preuve dans leurs actions, par les codes sociaux qu'ils respectent et instituent. Mais ils ont l'apparence ou portent le nom de plantes ou d'animaux et sont à l'origine des stocks d'esprits déposés dans des sites, dans les sites où ils disparurent, qui s'incorporent depuis lors à la fois dans les individus de l'espèce ou de la classe d'objets qu'ils représentent et dans les humains qui ont cette espèce ou cet objet pour totem. Le rêve est donc bien autre chose, le rêve avec une majuscule, qu'une manière aborigène de désigner ces temps mythiques auxquels bien des peuples ont coutume de renvoyer la jeunesse fabuleuse des êtres et des choses. Car lors de cette aurore du monde, un mouvement de génération continuée s'est enclenché, dont les effets se font sentir jusqu'à présent. La potentialité laissée par les êtres du rêve dans des sites et dans des itinéraires s'actualise sans cesse par les incorporations successives de leurs esprits dans des entités de diverses sortes et grâce aux rites, aux procédures de nomination et aux parcours réitérés au moyen desquels les aborigènes rendent tangible et vivace la présence cachée de ces entités qui, en modelant les êtres et les choses, donnèrent sens et ordre au monde. Donc le rêve n'est ni un passé remémoré, ni un présent rétroactif, mais une expression de l'éternité, avérée dans l'espace, un cadre invisible du cosmos garantissant la pérennité de ses subdivisions ontologiques. Quant aux êtres du rêve, ils ne peuvent pas être assimilés à de classiques héros mythiques, puisque leur élan ordonnateur, en partie solidifié dans tel ou tel trait du paysage, s'est néanmoins poursuivi, sans interruption, après qu'ils eurent abandonné la surface de la terre. Ils ne sont pas non plus des ancêtres, stricto sensu, puisque chaque existant, humain ou non humain, est lié à l'entité qui le détermine par un rapport direct de duplication, de présentification, de mise en forme, non par une filiation qui se déroulerait en cascade de génération en génération. Donc l'organisation totémique, c'est-à-dire l'association entre des entités et des phénomènes non humains et des groupes de personnes humaines, relève en Australie d'un processus à la fois originaire et constamment poursuivi de fixation d'essence et de forme de vie déjà différenciées en classes et en types, au sein desquelles les composantes sociales et physiques sont inextricablement mêlées. Cette identité mixte combine des traits de comportement, des dispositifs et objets rituels, des taxinomies qui sont à la fois sociologiques et biologiques, des noms, des récits, des sites, des trajets inlassablement parcourus, tous éléments que l'on serait bien en peine de distribuer de part et d'autre d'une ligne imaginaire séparant la nature de la culture. On voit bien que ces deux ontologies contrastées engagent des systèmes cosmologiques et des formes sociologiques sui generis. Dans le totémisme australien, en effet, humains et non-humains sont distribués conjointement dans des collectivités différentes et complémentaires, les groupes totémiques, dont le principe de composition est identique, mais dont les propriétés intrinsèques ne le sont pas, condition pour une exogamie généralisée. Sans doute même est-ce parce que les humains et les non-humains constituent ensemble des collectivités singulières d'un genre différent de celles que forment les espèces naturelles, lesquelles sont endogames, qu'existe la possibilité d'une union matrimoniale entre des groupes humains pourtant désignés par des noms de plantes et d'animaux qui ne peuvent s'apparier. Dans les systèmes animiques, au contraire, humains et non-humains se répartissent séparément au sein de collectivités multiples, chacune définie par une corporalité d'espèces, qui ce sont des ensembles sociaux certes formellement isomorphes et liés par des rapports de réciprocité, de prédation, de dépendance, mais qui ne se marient pas entre eux. Un troisième mode d'identification repose sur le fractionnement de l'ensemble des existants en une multiplicité d'essences, de formes et de substances séparées par de faibles écarts, parfois ordonnées dans une échelle graduée, de sorte qu'il devient possible de recomposer le système des contrastes initiaux en un dense réseau d'analogies reliant les propriétés intrinsèques des entités distinguées. Cette manière de distribuer les différences et les correspondances lisibles sur la face du monde est très commune. Elle s'exprime par exemple dans les corrélations entre microcosme et macrocosme qu'établissent la géomancie et la divination chinoise, dans l'idée qui est courante en Afrique que des désordres sociaux sont capables d'entraîner des catastrophes climatiques, ou même dans la théorie médicale des signatures, plus près de nous, qui font de l'étiologie et la thérapeutique des maladies sur les ressemblances que des substances ou des objets naturels présentent avec des symptômes ou des parties du corps humain. Ce qui frappe d'emblée dans de tels systèmes, c'est l'inventivité qui s'y déploie pour traquer, à des fins pratiques, toutes les similitudes et les résonances offertes à l'inférence par l'observation. La recherche du bonheur ou la recherche des causes de l'infortune s'appuie sur l'hypothèse que les qualités, les mouvements ou les modifications de structure de certains existants exercent une influence sur la destinée des humains ou sont eux-mêmes influencés par le comportement de ces derniers. Donc l'obsession de l'analogie devient un trait dominant, affirmé avec une vigueur d'autant plus maniaque que ses effets dans la vie quotidienne sont réputés plus cruciaux. Et c'est pourquoi le qualificatif d'analogique paraît le plus idoine pour désigner ce schème. Toutefois, l'analogie n'est ici qu'un résultat ou une conséquence. Elle ne devient possible et pensable, l'analogie, que si les termes qu'elle met en rapport sont distingués à l'origine, que si le pouvoir de déceler des similitudes entre les choses et d'effacer ainsi en partie leur isolement s'applique à des singularités. En conjoignant par une opération de la pensée ce qui était auparavant disjoint, la ressemblance suspend bien la différence pour un moment, mais c'est pour en créer une nouvelle dans le rapport des objets à eux-mêmes, puisqu'ils deviennent étrangers à leur identité première dès lors qu'ils se mêlent les uns aux autres dans le miroir de la correspondance et de l'imitation. Bref, l'analogisme est une sorte de rêve herméneutique de complétude qui procède d'un constat d'insatisfaction. Prenant acte de la segmentation générale de toutes les composantes du monde sur une échelle de petits écarts, il nourrit l'espoir de tisser ces éléments faiblement hétérogènes en une trame d'affinité et d'attraction signifiante ayant toutes les apparences de la continuité. Mais c'est bien la différence infiniment démultipliée qui est l'état ordinaire du monde et la ressemblance, le moyen espéré de le rendre intelligible et supportable. En Chine ancienne, écrit Marcel Granet, je le cite, « la société, l'homme, le monde sont l'objet d'un savoir global qui se constitue par le seul usage de l'analogie. Et il est difficile, en effet, de ne pas voir dans la manière dont cette civilisation a rendu compte de son expérience des choses une belle illustration du mode d'identification analogique, porté à un très haut degré de subtilité et de raffinement par plusieurs millénaires de spéculations lettrées. La philosophie chinoise rend en tout cas manifeste au plus haut point ce qui paraît être un trait central de toute ontologie analogique, à savoir la difficulté à distinguer en pratique, dans les composantes des existants, entre ce qui relève de l'intériorité et ce qui relève de la physicalité. C'est ce qu'exprime bien cet aphorisme tiré d'un traité à peu près contemporain d'Aristote, le Hitze, je demande pardon aux Chinois, je sais qu'il y en a dans la salle pour ma prononciation, je cite, « les Wu sont faits de Tsing et de Qi. Par Wu, il faut entendre chacun des types de choses animées et inanimées, un ensemble communément appelé les 10 000 essences, mais dont le nombre exact, calculé d'après les 64 hexagrammes servant à la divination, serait en fait de 11 520, correspondant à autant de situations, d'états et d'emblèmes singuliers. Chaque Wu, chaque essence, est constituée d'émanations provenant du ciel où règne le souffle, qi, et de la terre qui produit les essences nourricières, tsing, de sorte que toute nature, au sens grec de phusis, sing, est le résultat d'une combinaison et d'un dosage plus ou moins harmonieux et équilibré entre des éléments hétérogènes qui procèdent de l'eau, du feu, du bois, du métal, de la terre. Bref, la manière d'être, la personnalité, le tempérament, l'idiosyncrasie, le signe d'un existant ne sont pas le fait d'une opposition dynamique entre l'esprit et la matière, mais expriment les distinctions établies entre les états des éléments et les proportions de leurs mélanges respectifs. Cette multiplication démesurée des pièces élémentaires du monde se répercutant au sein de chacune de ces parties, dont les humains, fragmentés en de nombreux constituants, eux-mêmes dédoublés dans des emboîtements successifs, semble être une propriété distinctive de l'ontologie analogique et l'indice le plus sûr permettant de l'identifier. D'un point de vue ontologique, l'analogisme se distingue des deux formules précédentes en ce qu'il n'est fondé ni sur une homologie des intériorités et une différence des matérialités, comme l'animisme, ni sur un partage des intériorités et des matérialités, comme le totémisme australien. En effet, l'intentionnalité et la corporéité affleurent rarement dans l'analogisme comme des entités autonomes, distribuées qu'elles sont dans des chaînes de couplage mariant le matériel et l'immatériel à tous les niveaux d'échelle du microcosme et du macrocosme. Aussi, ma définition de l'analogisme comme une combinaison de différences des intériorités, de différences des physicalités, n'est-elle pas à prendre tout à fait au pied de la lettre, tant les contours de ces deux ensembles y apparaissent indécis. Il faut plutôt y voir une manière approchée de qualifier ce foisonnement de singularités plus ou moins accordées qui émiettent l'évidence du physique et du moral pour mieux assurer leur jonction. Dans un tel cas, les humains et les non-humains appartiennent à une même collectivité, le monde, dont l'organisation interne et les propriétés dérivent des analogies perceptibles entre les existants. En langage anthropologique, on pourra parler ici de cosmocentrisme, par contraste avec le cosmomorphisme du totémisme australien et l'anthropocentrisme de l'animisme. Il reste une quatrième formule, la nôtre, que l'on pourrait appeler le naturalisme. Car le naturalisme, ce n'est pas seulement l'idée que la nature existe, autrement dit, que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étranger au hasard comme aux effets de la volonté humaine. Le naturalisme ne qualifie pas seulement l'avènement conventionnellement fixé au XVIIe siècle d'un domaine ontologique singulier, un lieu d'ordre et de nécessité, où rien ne se produit sans une cause, que cette cause soit référée à une instance transcendante ou qu'elle soit immanente à la texture du monde. Le naturalisme implique aussi une contrepartie, un monde d'artifice et de liberté dont la complexité va se dévoiler progressivement jusqu'à rendre nécessaire, au cours du XIXe siècle, l'émergence de sciences spéciales, les sciences sociales et humaines, qui vont fixer ses caractéristiques et ses contours, c'est-à-dire la diversité des manifestations de l'action créatrice des hommes en tant que producteurs de normes, de signes et de richesses. Or, si l'on fait l'effort de considérer le naturalisme, c'est-à-dire la coexistence entre une nature unique et une multiplicité de cultures, non pas comme l'étalon permettant d'objectiver toute réalité, mais comme un mode d'identification parmi d'autres, alors les propriétés distinctives de notre cosmologie deviennent beaucoup plus nettes. Par exemple, le naturalisme inverse la construction ontologique de l'animisme, puisque, au lieu d'une identité des âmes et d'une différence des corps, comme c'est le cas dans l'animisme, il présuppose au contraire une discontinuité des intériorités et une continuité matérielle. Ce qui distingue les humains des non-humains pour nous, c'est bien l'âme, la conscience, la subjectivité ou le langage. De même que les groupes humains se distinguent les uns des autres par une sorte de disposition interne collective que l'on a longtemps appelée l'esprit d'un peuple. Depuis Descartes, en revanche, et surtout depuis Darwin, on sait que la part physique des humains les situe dans un continuum matériel au sein duquel ils se différencient peu des autres entités du monde. Du point de vue de l'organisation cosmologique que le naturalisme instaure, les humains se voient ainsi distribués au sein de collectivités nettement différenciées, que nous appelons des cultures, et qui excluent de droit non seulement l'ensemble des non-humains, mais aussi, dans un passé encore proche, des humains exotiques ou marginaux, que leurs mœurs incompréhensibles et le défaut d'âme, de spiritualité ou d'élévation morale que celle-ci signalait, conduisait à ranger dans le domaine de la nature en compagnie des animaux et des plantes. Cette discrimination ontologique qui frappe les animaux et jadis les sauvages témoigne ainsi de façon très nette du privilège accordé dans notre mode d'identification aux critères fondés sur les expressions de l'intériorité, du langage à la subjectivité, en passant par les affects, ou la conscience réflexive. Les principes qui régissent une telle cosmologie sont si simples que nous avons tendance à les croire universels. Les frontières et les propriétés de la collectivité des humains sont dérivées de la division fondamentale qui peut être tracée entre humains et non-humains. Autrement dit, dans le langage de la modernité, ça peut se traduire de la façon suivante. La culture tire ses spécifications de sa différence avec la nature. Elle est tout ce que l'autre n'est pas. En termes anthropologiques, on appellera cela de l'anthropocentrisme. Ainsi, ce que nous appelons la diversité culturelle, terme hautement galvaudé, n'est pas une donnée brute et évidente du réel. C'est une manière propre à l'épistémologie naturaliste d'opérer des découpages dans la trame du monde. Car c'est sur le fond d'une nature homogène et aux frontières intangibles que le chatoiement des œuvres humaines devient perceptible dans la multiplicité de ses réalisations singulières. Et même si le naturalisme est en passe, à présent, d'étendre à la majeure partie de la planète sa grille de lecture des choses, il faut souligner avec force que notre cosmologie est une production historique récente et non un étalon éternel que les modernes auraient su accoucher du ciel des idées. Cette cosmologie n'en présente pas moins quelques traits remarquables sur lesquels il nous faut revenir en guise de conclusion. En premier lieu, elle est unique. On trouve partout et à toutes les époques des schèmes d'identification fondés sur l'animisme, sur le totémisme ou sur l'analogisme. Mais le naturalisme sous sa forme complète n'est apparu qu'en Europe, même si on en trouve des ébauches ailleurs, dans des civilisations qui partageaient certaines des prémices de l'Europe, notamment la conjonction du monothéisme et de la physique grecque, sans les avoir pour autant développées dans toutes leurs conséquences. On pense ici au monde arabo-musulman. Cette singularité s'accompagne d'une prétention sans précédent à l'universalité, c'est-à-dire d'une conviction tranquille que la cosmologie naturaliste étant la seule vraie, elle ne pourra que supplanter à terme toutes les autres cosmologies, puisque celles-ci peuvent être comprises et évaluées à partir du cadre ontologique général que le naturalisme fournit. Il n'existe pas de théorie totémique de la plus-value ou de la photosynthèse, tandis qu'il existe en anthropologie plusieurs théories du totémisme australien. Une telle prétention à l'universalité se nourrit bien sûr de la prodigieuse expansion des sciences positives qui a accompagné la consolidation du naturalisme et qui l'a légitimé par des prédictions de plus en plus fiables et précises quant au comportement des composantes du monde. Or, si notre cosmologie est historiquement unique, apte à accommoder toutes les autres et équipée pour ce faire d'outils explicatifs incomparables, ne serait-ce pas tout simplement parce qu'elle est vraie, parce que le partage qu'elle établit entre l'universalité objective des lois de la matière et de la vie et la diversité subjective des institutions humaines est celle qui correspond le mieux à la nature des choses. C'est là une question à laquelle, je le dois le confesser, un anthropologue ne saurait répondre. Non pas par scepticisme ou par adhésion à un relativisme de principe, mais parce qu'il s'agit d'une croyance. On peut tenir pour vrai une théorie physique si l'on entend par là qu'elle rend compte mieux et plus complètement que toute autre théorie de la structure et du mode d'action des éléments de la matière. Il n'y a aucun sens, en revanche, à tenir pour vraie ou fausse une cosmologie comme la nôtre, qui n'est qu'une manière parmi d'autres de distribuer des propriétés et d'opérer des regroupements ontologiques parmi les existants. Le fait que cette cosmologie ait servi de matrice à l'émergence et au développement de la pensée scientifique, qu'elle l'ait même dans une certaine mesure rendue possible, n'en fait pas pour autant une certitude scientifique. Le doute méthodique vis-à-vis des illusions de l'apparence est tout aussi vigoureux en anthropologie que dans les autres sciences, mais son champ d'application est plus large, car la familiarité acquise par l'anthropologue avec des manières très différentes d'objectiver le réel le protège finalement mieux de la tentation de prendre comme allant de soi le schéma de perception du monde qu'il a intériorisé au cours de son éducation. Qu'un tel doute soit lui-même un effet des conditions de fonctionnement épistémique de notre cosmologie, voilà qui est aussi fort probable. Et voilà qui montre en tout cas qu'il est impossible de se soustraire complètement à cet autre invariant de la condition humaine qu'est l'ethnocentrisme. Je vous remercie.
Vous n'avez jamais prononcé au cours de votre conférence le mot de sacré. Comment placez-vous cette notion du sacré dans l'évolution humaine?
J'ai appris ce que c'était que le sacré en lisant Durkheim, comme beaucoup de gens, notamment les formes élémentaires de la vie religieuse. Ça me paraît l'usage de ce terme, en tout cas, et l'usage de cette notion pour définir un certain type de faits sociaux par Durkheim m'a paru la partie la plus contestable des formes élémentaires de la vie religieuse. Je ne sais pas ce que c'est que le sacré. Je suis désolé, je ne saurais pas vous répondre. C'est pas un concept qui fait partie de ma boîte à outils. Ah, je sais ce qu'on a dit sur le sacré, oui, mais pour moi, c'est un concept qui est vide de sens.
Oui, est-ce que l'apparent relativisme que vous utilisez, relativisme ethnique que vous utilisez en anthropologie, va jusqu'à considérer les sciences occidentales comme des ethnosciences ? Ce que semble indiquer la référence à l'ethnocentrisme que vous avez eu comme conclusion. Mais d'un autre côté, je suis sceptique quant à l'utilisation du naturocentrisme dans nos sociétés. Il s'agit beaucoup plus d'une pensée dualitaire, et personnellement, je ne crois pas du tout que la nature existe, que son utilisation en science et encore dans la culture générale est un archaïsme historique, et qu'il est actuellement assez facile de s'en passer, de ne plus utiliser ce concept.
Ah, il y a plusieurs questions. Concernant la première, le relativisme des anthropologues, c'est un relativisme de méthode. Ce n'est pas un relativisme de principe, ce n'est pas un relativisme moral, encore moins. Il consiste à considérer que les institutions, les croyances et les usages qui leur sont les plus familiers, ne constituent pas un étalon ou une norme pour permettre de juger les autres croyances, institutions et usages. Donc il ne s'agit pas d'une pétition de principe quant à la nature du monde. Cela dit, je ne me considère pas comme un relativiste, je serais plutôt un universaliste relatif, c'est-à-dire que je crois que j'ai essayé de le montrer aujourd'hui, qu'il y a un petit stock de relations que tous les peuples ont utilisées de façon à construire leur manière de s'objectiver dans le monde. Et en ce sens, ils sont universels, ces relations, mais elles sont différentes. Mais certains peuples peuvent utiliser certaines d'entre elles à certains moments et d'autres à d'autres moments. C'est pour ça que je parle d'universalisme relatif. Alors, pour ce qui concerne les ethnosciences, je crois que justement, l'une des caractéristiques de la définition des ethnosciences, c'est-à-dire ce que les anthropologues appellent les ethnosciences, ce sont des sciences occidentales qu'ils projettent sur des manières sur des systèmes de connaissances non occidentaux. Donc, on appelle ça de l'ethnobotanique, de l'ethnozoologie, de l'ethnominéralogie, de l'ethnoentomologie. Il y en a un nombre considérable maintenant, de l'ethnopsychiatrie, bien sûr. Et qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que la manière dont l'Occident, à travers une histoire des sciences dont on sait bien par quel mécanisme les sciences se sont annexées certains domaines d'objets, que donc les sciences occidentales constituerait la matrice, en somme générale, des découpages ontologiques entre les existants. Or, ce n'est absolument pas l'impression que j'ai. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Donc, parler d'ethnoscience me semble être, au contraire, une validation parfaite de la prétention universaliste du naturalisme. Hein, parce que ça consiste à déterminer ou à repérer, en somme, dans d'autres systèmes de savoir, des domaines de connaissances qui seraient formellement équivalents à ceux qui ont été progressivement constitués par les sciences occidentales.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au début à propos de l'étourdissante variété de schèmes corporels perçus comme naturels. Parce que dans les sociétés que vous appelez non modernes, les survivants sont soit des guetteurs, soit des attrapeurs, et ils étaient fascinés par la course des animaux, par leur façon de sauter. Et plus près de nous, dans des sociétés opposées donc aux non modernes, les sociétés hautement technologiques, les entraîneurs des Jeux Olympiques vont observer les pumas pour justement cette histoire d'exemple de saut en hauteur. Ils vont observer les guépards pour des modèles de sprinteurs. Donc ces modèles animaux, pour eux, étaient des modèles naturels. Et il y a une espèce de continuité, je pense. Alors, est-ce que j'ai une obsession de l'analogie? Est-ce que c'est un rêve de complétude que je fais? Ou est-ce que... Enfin, je voudrais revenir là-dessus.
Oui, c'est certain que des sociétés qui... Moi, j'ai vécu, j'ai eu le privilège de vivre plusieurs années dans l'une de ces sociétés en Haute-Amazonie, où l'habitat est extrêmement dispersé. C'est-à-dire que, en somme, les maisons, les grandes maisons qui contiennent jusqu'à 25 ou 30 personnes sont distantes les unes des autres de 2 heures, 3 heures, une journée de marche. Donc, ces gens-là vivent essentiellement en interaction avec des non-humains. Et dès que l'on sort de la maison, on est, c'est en forêt, en Amazonie, face à un foisonnement de plantes et d'animaux. Et donc les interactions constantes au cours de la journée sont d'abord avec des non-humains. Et donc les facultés d'observation sont sollicitées en permanence, et la connaissance, bien évidemment, de l'éthologie des animaux est très profonde, ne serait-ce que parce qu'elle est indispensable pour la chasse. Cela dit, est-ce qu'il y a transposition de ces observations dans des comportements Je ne saurais pas le dire.
Et puis en Afrique du Sud, pour observer donc les guépards et les jaguars, pour justement avoir un complément d'informations pour les entraînements des Jeux Olympiques.
Oui, mais ça fait longtemps qu'on essaie, que les physiologistes essayent de décomposer le mouvement animal, notamment celui des oiseaux, oui, bien sûr, comme source d'inspiration.
Oui, c'est pour avoir... Oui, un détail sur une phrase que vous avez prononcée en parlant des traits remarquables du naturalisme. Vous avez dit qu'en particulier, il était apparu en Europe sous sa forme complète, et là, vous n'avez pas continué la phrase. Donc, j'aurais voulu savoir comment il a émergé en Europe sous sa forme complète, à peu près à quelle date et comment.
Conventionnellement, je dirais que c'est avec la révolution mécaniste. C'est un élément classique de l'histoire des idées, de l'histoire des sciences, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Après ce mouvement d'effervescence de la Renaissance, qui me paraît constituer au contraire un des moments où l'analogisme a brillé de ses feux les plus vifs, c'est cette époque que Foucault, dans Les mots et les choses, étudie lorsqu'il étudie ce qu'il appelle la prose du monde. C'est-à-dire cette époque de la Renaissance où on auparavant, où on s'attachait pour l'essentiel à trouver des correspondances multiples entre tous les êtres du monde. Cette cosmologie qu'on a appelée la chaîne de l'être. Arthur Lovejoy a consacré un des plus grands livres d'histoire des idées du XXe siècle à cette idée. Il y a conventionnellement, avec la révolution mécaniste au XVIIe siècle, un mouvement de rupture qui se produit, mais c'est un accouchement progressif, bien sûr. C'est un accouchement qui commence certainement avec la philosophie et la physique grecque, et qui subit différentes étapes, l'avènement bien sûr du christianisme, et qui prend toute son ampleur en somme en effet à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle.
Le sociologue Bruno Latour, dont le relativisme a été contesté, se pose dans un de ses derniers livres, Politique de la nature, se pose la question comment tenir compte des intérêts des non-humains et des opinions des autres modes de saisie des choses du monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand j'ai lu Politique de la nature, j'étais très impressionné. Je connais les autres livres, les livres précédents de Bruno Latour, parce que pour la première fois, quelqu'un essayait de tracer les linéaments de ce qui pourrait être un programme politique d'un monde un peu différent du monde dans lequel nous vivons, mais qui n'a pas été conçu et perçu et analysé comme tel par les spécialistes de philosophie politique. Cela dit, entre les propositions très générales que fait Bruno Latour, un parlement des êtres et des choses qui permettrait de trier les existants du monde qui pourraient rentrer en somme dans une communauté, dans un commonwealth, une res publica, et des dispositions pratiques, il y a un abîme. Et je dois dire, je ne vois pas très bien les dispositions pratiques que l'on pourrait prendre, mais les choses changent par la pratique. Ce ne sont pas les universitaires, les chercheurs ou les intellectuels qui font changer les choses. À un certain moment, ils réfléchissent à un certain état des choses, et certains d'entre eux arrivent à le synthétiser, et donc à faire avancer peut-être, ou cristalliser une situation, mais c'est rarement eux qui font bouger les choses. Donc il faut voir dans tous les lieux, en somme, où se construit la modernité, dans le droit, dans les laboratoires de biologie, c'est ce qui est en train de se passer. En droit, par exemple, les choses changent énormément concernant le droit des non-humains. Et ça, c'est un symptôme. Ce ne sont pas des intellectuels au sens classique, ce ne sont pas des intellectuels organiques qui font bouger le droit. Ce sont des juristes confrontés au jour le jour avec des difficultés pratiques. Et c'est dans ce domaine-là qu'il faut attendre voir les transformations.
Où placez-vous le mot « art » dans les concepts que vous nous avez exposés? Et en particulier, quelle est votre position sur la création de ce futur musée que l'on appelle musée des arts primitifs ou des arts primaires?
Premier.
Premier.
Pardon. C'est un cache-sexe pour parler d'art primitif, de toute façon, c'est bien. deux questions encore. Bon, l'art, c'est un concept. Est-ce que c'est un concept naturaliste ou est-ce que c'est un concept analogique et naturaliste? Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est les différences dans les formes, les techniques de figuration, notamment dans les formes de perspective. Si on compare, par exemple, la manière dont sont représentés en trois dimensions des êtres ou des choses dans le monde amazonien ou dans le monde subarctique d'un côté, en Australie de l'autre, en Chine, enfin, en Occident, on s'aperçoit que les conventions qui sont utilisées pour faire vivre, pour figurer ces représentations, sont de nature extrêmement diverse. Et cela dit, je n'ai pas une théorie universelle de tout, fort heureusement, mais c'est une des choses sur lesquelles je souhaiterais travailler dans l'avenir, voir s'il existe des correspondances entre des formes, je le soupçonne, entre des formes de figuration et ces quatre grandes ontologies que j'ai évoquées jusqu'à présent. Alors, le musée des arts premiers, le musée du Quai Branly, c'est un projet qui est né de la volonté du président de la République, qui est amateur d'art premier, de sauver le musée de l'homme de l'état de déréliction dans lequel il était tombé, faute de moyens essentiellement et faute de personnel. Comme dans tous les musées de ce type-là, il y a une tension entre, d'un côté, les conservateurs qui ont la responsabilité des collections d'objets et qui ont la responsabilité de les exposer et qui ont tendance à voir les objets principalement en fonction de leur qualité plastique, et puis les chercheurs qui souhaitent que ces objets soient non seulement présentés comme des objets d'art, mais aussi en fonction des sociétés qui les ont produits et qui les ont utilisés. Et donc cette tension, elle est permanente dans tous les musées d'ethnographie. Et cela dit, je pense que les collections seront très très bien mises en valeur dans ce musée. On peut espérer que la recherche scientifique y aura aussi le niveau que les anthropologues souhaiteraient.
Est-ce qu'on a une idée des causes de cette géodistribution des croyances sur le monde? Parce que ça paraît curieux que des continents entiers pratiquent la même, entre guillemets, croyance, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ces quatre types de croyances soient un peu saupoudrées en fonction de dans le monde et non pas dans des continents.
Elles sont saupoudrées, c'est-à-dire que pour prendre l'exemple d'un continent qui m'est familier, à savoir les Amériques, on y trouve à la fois des ontologies animiques, dans les basses terres, essentiellement en Amazonie, de façon très très nette en Amérique, bien sûr dans les populations autochtones, je parle ici subarctiques, mais aussi des systèmes analogiques on ne peut plus nets en Mésoamérique et dans les Andes. C'est le cas aussi en Asie du Sud-Est, où on trouve ce genre de combinaison. Alors, le problème des conditions, là il s'agit de conviction, parce que pour ce qui concerne une grande partie du passé, notamment de certaines de ces régions, il nous est inaccessible. Il me semble que face à une multiplicité, enfin pas une grande multiplicité, puisque encore une fois il y en a quatre essentielles, de possibilités d'organiser, de distribuer les propriétés des entités du monde, eh bien les peuples ont fait des choix. Ces choix ont pu se propager de proche en proche, ou au contraire s'opposer, parce qu'on s'oppose à ses voisins de façon exemplaire en faisant le contraire de ce qu'ils font. Et que c'est probablement de cette façon-là que la distribution s'est opérée. Mais je pense que chacun d'entre nous, à tout moment, possède des éléments de chacun de ces modes d'identification. Nous sommes tous un peu analogiques. En tout cas, si l'on lit un horoscope, on est analogique. On est animique si on parle avec son chat. Et on est totémique si on pense que le fait d'être originaire d'un village vous donne une sorte de proximité avec un génie d'un lieu tel qu'aucun autre endroit au monde n'est pareil à cet endroit. Donc, et cela dit, c'est quand même le naturalisme qui constitue notre gabarit principal. Donc ces quatre possibilités existent à tout moment, simplement certaines d'entre elles sont cristallisées dans un schème collectif qui est évidemment très efficace parce qu'il est transmis par l'éducation formelle ou informelle.
Bien, Philippe Descola, merci.